Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manirakiza à la présentation de cette édition du vendredi 23 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Ouverture aujourd'hui des JO 2022 Tokyo. Le coronavirus a assombri la grande fête du sport mondial. En RDC, 16 morts dans un nouveau massacre en territoire de Beni. L'armée de l'air nigériane se dote de 6 avions de chasse pour lutter contre l'insécurité croissante. Dans 10 minutes, vous suivrez également notre journal des Jeux Olympiques de Tokyo. Mais d'abord, quelques nouvelles du monde. Les Jeux Olympiques les plus attendus de l'histoire, retardés d'un an par le coronavirus, ont officiellement débuté à Tokyo aujourd'hui. Les trois coups de cette quinzaine de sports ont été donnés lors d'une cérémonie d'ouverture sobre, parfois grave, dans le contexte pesant de la pandémie. Jacques Aristide.
Je déclare ouvert les Jeux de Tokyo.
Ton solennel de l'empereur du Japon Naruhito pour donner le coup d'envoi au JO 2020, tant attendu depuis que Tokyo a été désignée ville hôte il y a 8 ans. Le Covid-19 a demolé la cérémonie d'ouverture. Pas de caractère festif comme à Rio il y a 5 ans, mais hommage plutôt au personnel médical en première ligne contre la pandémie et un défilé inédit de sportifs masqués. Thomas Bach, président du Comité international olympique, a salué la résilience du Japon et des sportifs.
It was a difficult journey with unprecedented challenges.
Aujourd'hui est un moment d'espoir. Ce sentiment d'unité, c'est la lumière au bout du tunnel obscur de cette pandémie.
La cérémonie a duré 3h30 et s'est déroulée devant des tribunes quasiment vides. Autour du stade olympique, des manifestants anti-JO ont exprimé leur hostilité à cet événement qui a coûté au Japon environ 15 milliards de dollars. La première des 339 médailles d'or sera attribuée dès demain matin. Ces Jeux hors normes ont lieu jusqu'au 8 août et dans 3 ans, rendez-vous à Paris pour les JO 2024.
En RDC, 16 civils ont été tués dans une embuscade tendue dans l'Est par des membres présumés d'un groupe armé des forces démocratiques alliées, selon une annonce faite ce vendredi par 2 sources concordantes. Le point avec Nanit Talani.
L'embuscade a eu lieu jeudi soir sur l'axe Maïmouya et Chani-Chani, à 40 km de Beni dans le Nord Kivu, où se tient un marché chaque jeudi. Les 16 victimes revenaient du marché, 15 adultes dont 6 femmes et 9 hommes et un enfant ont tous été tués par balle, a indiqué le docteur Jérôme Mouniambété, directeur de l'hôpital général de Isha, ajoutant qu'il y a 9 blessés. Nicolas Kikuku, bourgmestre de Isha, affirme que c'est l'ennemi ADF qui a encore frappé la paisible population. Les ADF sont les rebelles musulmans ougandais présents dans l'est de la RDC depuis plusieurs années. Lewis Saliboko, un responsable de la société civile de Isha, se demande à quoi sert l'état de siège alors que les massacres continuent. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. Les autorités civiles ont été remplacées par des officiers de l'armée et de la police. Malgré tout, les attaques se poursuivent.
13 civils ont été tués mercredi en Centrafrique, à 300 km au nord de la capitale de Bangui, a affirmé jeudi dans un communiqué l'ONU, qui n'a pas précisé les circonstances de l'attaque ni l'identité des assaillants. Le gouvernement a accusé les éléments de la coalition des patriotes pour le changement CPC créée en décembre 2020 pour tenter de renverser le régime du président Faustin-Archange Touadéra d'être à l'origine de l'attaque. L'ONU a appelé à enquêter sur les circonstances de la mort des 13 civils et sollicite la coopération du gouvernement à cet effet.
Plus de 17 500 personnes ont été contraintes de fuir le Burkina Faso depuis le début de l'année en raison des attaques djihadistes, a annoncé vendredi le ACR, qui se dit alarmé par l'accélération de ces déplacements forcés. Alors que 430 demandeurs d'asile burkinabés ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire en mai, 179 ont été recensés par le ACR dans le nord du Bénin, où des milliers d'autres vivraient dans des zones frontalières inaccessibles aux travailleurs humanitaires pour des raisons de sécurité. L'ONU s'est déclaré vendredi extrêmement préoccupé par la situation humanitaire dans la région du Tigré au nord de l'Éthiopie, où le manque critique de nourriture et autres denrées se fait gravement ressentir. Le PAM a requis un accès total au Tigré pour permettre la distribution de l'aide à près de 4 millions de personnes en grave insécurité alimentaire. Le Nigeria a reçu 6 des 12 avions de chasse achetés aux États-Unis pour lutter contre l'insécurité croissante, a annoncé l'armée de l'air nigériane. Claire Morejibourg.
Le premier lot d'avions A-29 Super Tucano est arrivé à Kano, a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air, Edward Gapwet. Le reste de la commande doit être livré en octobre. Les avions sont construits aux États-Unis par Sierra Nevada Corp et un partenaire brésilien. L'accord de 593 millions de dollars a été initialement dévoilé en mai 2016 sous l'ancien président Barack Obama. Cependant, l'administration Obama avait gelé la vente juste avant de passer le relais à Donald Trump lorsque l'armée nigériane avait accidentellement bombardé un camp de personnes déplacées dans le nord-est, tuant 112 civils. En août 2017, l'administration Trump a informé le Congrès qu'il avait trouvé l'accord qui comprend la fourniture de munitions, la maintenance des avions et la formation des forces armées nigérianes. Depuis le début de l'insurrection djihadiste, au moins 40 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions ont été obligés de quitter leur foyer.
La justice du Nigeria a condamné vendredi des pirates qui avaient détourné en 2020 un navire dans le golfe de Guinée à 12 ans d'emprisonnement. C'est le deuxième procès mené en vertu d'une nouvelle loi contre la piraterie adoptée en 2019. La haute cour fédérale de Lagos a également condamné chacun des pirates, tous Nigériens, a payé près de 520 euros. Les violences qui ont secoué l'Afrique du Sud mi-juillet ont fait un total de 330 morts, a annoncé le gouvernement vendredi. Les violences, pillages et incendies ont éclaté le 9 juillet au KwaZulu-Natal, au lendemain de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma pour outrage à la justice, avant de s'étendre à Johannesburg, capitale économique du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, les funérailles nationales de Jovenel Moïse, le président assassiné, ont débuté dans la ville de Cap Haïtien, dans le nord du pays. Des policiers ont été déployés un peu partout. Jovenel Moïse, tué le 7 juillet à son domicile à Port-au-Prince par un commando armé, était originaire du Nord. Ariel Henry, le nouveau premier ministre qui a pris ses fonctions mardi, a promis de traduire en justice les assassins. Le président américain Joe Biden a de son côté annoncé vendredi l'envoi en Haïti d'une délégation menée par Linda Thomas Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Les États-Unis vont se procurer 200 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech, et se sont positionnés pour un sérum contre les variants, a indiqué Pfizer vendredi. Marius Muhunga.
110 millions de ces doses supplémentaires devraient être livrées d'ici au 31 décembre et les 90 millions de doses avant le 30 avril 2022, ce qui porte le total de commandes américaines à 500 millions de doses. Début juillet, l'alliance Pfizer-BioNTech affirmait prévoir demander l'autorisation pour une troisième dose de son vaccin aux États-Unis après des résultats encourageants afin d'augmenter l'efficacité. Les autorités sanitaires américaines ont estimé que les Américains qui ont été entièrement vaccinés n'ont pas besoin d'un rappel à l'heure actuelle, mais se disant prêts à administrer de doses de rappel si et quand la science aura démontré qu'elles sont nécessaires. La propagation du variant Delta, apparu initialement en Inde, est le plus contagieux depuis le début de la pandémie du Covid-19, fait repartir nettement en hausse les contaminations dans le monde.
Le gouvernement tanzanien a annoncé qu'il s'équipait en vue de démarrer prochainement sa campagne de vaccination contre le coronavirus. La ministre de la Santé, Dorothy Gwajima, a déclaré dans un communiqué jeudi soir que le gouvernement interdisait également tous les rassemblements non nécessaires. Le défunt président John Magufuli minimisait l'ampleur de la pandémie, affirmant que la prière sauverait les Tanzaniens. Quelques 2,5 millions de personnes sont mortes et noyées entre 2009 et 2019, a affirmé vendredi l'OMS avant la première journée mondiale de prévention de la noyade dimanche. Selon l'organisation, 60% des personnes noyées avaient moins de 30 ans, les enfants de moins de 5 ans étant particulièrement touchés. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Get into the game. Nous retrouvons Yacouba Ouédraogo pour le journal des Jeux Olympiques. À toi Yacouba.
Bonsoir à tous. Nous commençons cette rubrique spéciale consacrée aux Jeux Olympiques de Tokyo. Avec la cérémonie d'ouverture sous le regard d'un millier de privilégiés, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, dernière relayeuse, a allumé ce vendredi la vasque olympique qui brille désormais à Tokyo et ce jusqu'au 8 août où aura lieu la cérémonie de clôture de cette 32e Olympiade. À Tokyo, les avis des habitants sont partagés sur la tenue des JO en pleine pandémie du Covid-19. Nanit Talani.
Des centaines de manifestants portant des pancartes indiquant « Vive les Jeux Olympiques » ont manifesté devant le stade national du Japon où se tenait la cérémonie d'ouverture. D'autres manifestants portant des masques chirurgicaux blancs ont scandé « Stop the Olympics », ce qui signifie « Arrêtez les Jeux Olympiques ». Les organisateurs ont été contraints de prendre des mesures sans précédent pour organiser les Jeux qui n'auront pas de spectateurs dans un contexte de recrudescence du nouveau coronavirus. Seul un tiers des Japonais a reçu ne serait-ce qu'une seule dose de vaccin, ce qui fait craindre que les Jeux ne favorisent l'expansion du virus. Plus de 100 personnes impliquées dans les Jeux olympiques ont déjà été testées positives.
Merci Nanit. Lors des Jeux olympiques de 2016 à Rio, l'Afrique a arraché 45 médailles et compte mieux faire cette année. De l'athlétisme au taekwondo en passant par l'aviron ou la natation, les Africains espèrent voir leur couleur briller à Tokyo. Bagassi Koura nous fait le point des chances de médailles du continent.
Il est sans doute la grosse chance pour son pays, le Burkina Faso, de décrocher sa première médaille olympique. Le triple sauteur Hugues Fabrice Zango a rejoint Tokyo avec le costume de favori, lui qui est recordman d'Afrique au triple saut en plein air. 17,82 m et champion mondial en salle, 18,07 m. Autre chance de médaille, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, spécialiste du 100 mètres et du 200 mètres, médaille d'argent en 2017 au championnat du monde à Londres, elle qui a échoué au pied du podium au JO de Rio pour se classer quatrième. En taekwondo, une autre Ivoirienne est à suivre de près, Christelle Gwabi, 5 fois championne d'Afrique chez les moins de 67 kg. Toujours en taekwondo, l'Ivoirien Cheikh Sala Cissé, détenteur de la médaille d'or olympique, attire toute l'attention chez les hommes dans les 80 kg. Dans la même discipline, le Nigérien Abdulrazak Issoufou Alfaga voudrait faire mieux que sa médaille d'argent arrachée en 2016 à Rio chez les plus de 80 kg. Dans les arts martiaux mixtes, le Sénégalais Ray Rugg, vainqueur de 3 combats pour une seule défaite dans la prestigieuse MMA américaine, est un prétendant sérieux à une médaille olympique. La Burundaise Francine Nyonzaba, qualifiée pour 5000 mètres dames et 10000 mètres, a des choses à montrer. Elle qui a été écartée des 800 mètres, son épreuve de prédilection à cause de son taux élevé de testostérone. Elle aura en face les sœurs éthiopiennes Genzebe et Anna Dibaba, qui domine 7 épreuves, surtout Genzebe, détentrice du record de 1500 mètres, 3 minutes 50 secondes. Les athlètes de l'Afrique de l'Est sont bien évidemment beaucoup attendus dans les courses de fond et demi-fond, tout comme au marathon avec le Kenyan Eliud Kipchoge. Ce dernier a été champion olympique de l'épreuve en 2016 à Rio. Il devra toutefois se méfier de l'Éthiopien Shura Kitata, qu'il a battu au marathon de Londres en 2020. 11 090 sportifs venant du monde entier vont se disputer les 339 médailles en jeu dans 33 sports au programme.
Merci Bagassi, c'est ici qu'on s'arrête pour cette fenêtre consacrée aux Jeux Olympiques de Tokyo.
C'était votre journal des Jeux Olympiques.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kidzado retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. L'athlète burkinabé Hugues Fabrice Zango, spécialiste du triple saut, participe aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il est le détenteur du record du monde en salle. Au début de l'année, il a réalisé un saut de 18,07 mètres. Le Burkina Faso compte sur lui pour remporter sa toute première médaille olympique de Ouagadougou. Le reportage de Henry Wilkins, récit Jacques Aristide.
Aucun Burkinabé n'est jamais monté sur le podium en 50 ans de participation aux Jeux Olympiques, mais de jeunes athlètes comme Raled Sawadogo ne perdent pas espoir et s'inspirent d'un ex-membre de leur club d'athlétisme.
Vous savez, quand on commence l'athlétisme au Burkina Faso, on a l'impression qu'on est au bas de l'échelle. On a l'impression qu'on ne peut pas aller haut. Mais il nous a prouvé aujourd'hui en battant le record du monde en salle, à 18 mètres, à plus de 18 mètres, je veux dire.
À 28 ans, Hugues Fabrice Zango est devenu le premier athlète à sauter plus de 18 mètres en salle. À Tokyo, l'optimisme est de mise.
Franchement, il faut dire que la pression monte. La pression monte et parce qu'il y a beaucoup d'attentes justement à ces Jeux Olympiques-là. Nous arrivons à ces Jeux Olympiques avec de grandes ambitions, c'est-à-dire amener une première médaille pour le Burkina. Et là, la pression monte et on va dire que c'est de bonnes choses, c'est de bon augure. Ça prouve que la tâche qu'on a à accomplir, elle est grande.
Le Burkina Faso est le théâtre d'attaques meurtrières. Pour Hugues Fabrice Zango, décrocher la toute première médaille olympique va apporter de l'espoir au pays. En attendant, ses parents, eux, sont d'avis qu'il faut repérer tous les talents et les accompagner dans leur quête de médailles. Jacques Zango, père de Hugues Fabrice.
Oui, il faut dire qu'à ce niveau, on l'a senti dès son bas âge, déjà à l'école. C'est quelqu'un de curieux, qui aime apprendre et qui aime aller jusqu'au bout de son raisonnement.
Félicité Zango, sa mère.
Et effectivement, bon, et comme il demandait à ce que sa nourriture soit, sa ration soit vraiment adaptée.
Hugues Fabrice concilie athlétisme et études, car il fait en ce moment un doctorat en génie électrique à l'université d'Artois en France. Pour son ancien entraîneur au lycée, Désiré Sanou, quoi qu'il arrive à Tokyo, Hugues Fabrice, le champion, profite déjà à l'athlétisme burkinabé.
Non seulement connaît Zango, mais aujourd'hui beaucoup de parents veulent que leur enfant fasse de l'athlétisme. Donc ça, c'est déjà un point très positif pour nous.
Avis que partage le jeune Raled Sawadogu.
Effectivement, c'est le rêve de tous les athlètes en fait. Chaque athlète rêve de participer aux Jeux Olympiques.
Tout le Burkina aura les yeux braqués sur Hugues Fabrice Zango le jeudi 5 août, jour de la finale du triple saut.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Pour ces Jeux Olympiques, le Tchad s'est fait représenter à cette rencontre sportive par trois jeunes sportives. Les athlètes et les encadreurs sont déjà sur place, mais plusieurs officiels sont encore en N'Djamena, faute de moyens financiers. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Il s'agit de la judokate Memelum Demossé de Urtu Marlise, de la discipline tir à l'arc. Les deux font leur baptême de feu à cette compétition. Mohamed Bachir Ahmad est spécialiste en 400 mètres et totalise 8 ans d'expérience dans cette catégorie de compétition.
Je ne peux pas dire que je suis le meilleur, mais bon, c'est un travail acharné de toute une équipe. Il y a beaucoup de potentiel aussi comme moi ici sur place aussi qui mérite aussi de le faire, mais c'est juste que c'est le travail.
Évoluant Centre régional de jeunesse et sport de Juan et Normandie en France, l'athlète Mohamed Bachir Ahmad Sidi, confiant de sa performance.
Je ne parle pas représenter ma personne, mais là, je parle pour la représentation de la nation tchadienne. Donc, j'ai intérêt à tout donner pour essayer de flotter le tricolore. Comme c'est une compétition, tu ne peux pas savoir exactement qui tu vas affronter là-bas, parce que tout le monde part déjà pour gagner. Donc, on va aller comme si on est en train de partir à la guerre.
Les responsables de la Fédération tchadienne d'athlétisme ne doutent pas de la performance de leur poulain, mais se disent pessimistes quant au résultat attendu.
C'est vrai, c'est un athlète compétitif, mais sa performance ne lui permet pas d'espérer d'aller jusqu'en demi-finale ou en finale et espérant remporter une médaille malheureusement.
Fodé Ali, président de la dite fédération, pour lui, le niveau de cette discipline est relativement bas au Tchad pour plusieurs raisons.
D'abord, le jeune Tchadien de 20 ans n'a pas la forme physique de celui des jeunes Tchadiens des années 60, donc il y a un problème alimentaire. Le deuxième aspect, c'est le suivi médical. Malheureusement, l'état de décadence fait que nos sportifs sont de moins en moins suivis. Le troisième point le plus crucial, nous ne disposons pas des installations d'encadrement et de compétition. À titre d'exemple, nous avons une seule piste d'athlétisme qui date des années 90, qui a 30 ans. Nous, en athlétisme, il faut s'entraîner 3 fois par jour. Au Tchad, on s'entraîne 3 fois, 4 fois. Par semaine. Donc, ce que les gens font ailleurs en 2 jours, nous, on le fait en 1 semaine. Donc, il n'y a pas de comparaison. Nous essayons d'accompagner les autres en espérant qu'on gagnera des compétitions de notre niveau.
C'est le même sentiment qui anime le secrétaire général de la Fédération tchadienne de judo, Djarma Waïdou. Mais pour lui, même le Lemdemos de la catégorie moins de 70 kilos qui représente le Tchad dans cette discipline va aller plus loin.
Nous pensons que, vu son potentialité physique, sa rage de gagner, même le Lemdemos peut aller jusqu'au moins du premier, deuxième, troisième tour. Ça, on a espoir. Parce que hein, pour gagner une médaille aux Jeux Olympiques, il faut investir beaucoup d'argent et faire plusieurs compétitions de haut niveau pour être prêt à guérir une médaille. Mais je crois qu'elle est préparée physiquement, psychologiquement. Et nous pensons que le travail qui a été fait par la Fédération tchadienne de judo là, apportera ses fruits.
Même le Lemdemos qui participe aux Jeux Olympiques pour la première fois affrontera son adversaire d'Europe de l'Est le 28 juillet prochain. André Kodomadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Guinée, l'ambassade des États-Unis à Conakry dénonce les poursuites contre des opposants politiques. Elle appelle les autorités de Conakry à renforcer le pluralisme politique et le respect des droits de l'homme. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
C'est une déclaration qui fait suite à l'arrestation de 2 opposants, dont le président de la commission communication de l'ANAD, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. L'Alliance condamne ce qu'elle qualifie d'arrestation extrajudiciaire et crie aux violations des droits et libertés des opposants en Guinée. Diabaty Doré, vice-président de l'ANAD.
Les États-Unis encore viennent de prouver à la face du monde que tout ce que l'opposition a dit depuis longtemps, que c'est une réalité dans notre pays. Non seulement les droits de l'homme ne sont pas respectés, mais aussi, il y a une violation systématique et flagrante par rapport à l'arrestation des opposants. C'est des kidnappings et faire descendre musclés dans des concessions pour prendre des pères de famille devant leur famille, c'est honteux, c'est inhumain dans notre pays. Encore une fois, nous remercions les États-Unis, mais nous disons encore qu'ils doivent durcir le ton parce que jusqu'à présent, M. Alpha Condé ne bouge pas par rapport au respect des droits de l'homme dans notre pays.
Les 2 opposants sont accusés de propos subversifs, de rébellion, d'outrage au chef de l'État et de troubles à l'ordre public. Un chapelet d'infractions prévu et puni par les lois guinéennes. Selon Patrice Camara, membre du RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir, la situation n'est pas si grave.
Et la procédure continue malgré la libération que nous saluons, mais à titre conservatoire, d'autres ont été arrêtés récemment en contrefaçon de la constitution et des lois de la République, puisque la personne du président de la République est constitutionnellement protégée par la loi, et je crois que ce n'est pas un fait nouveau, ce n'est pas un fait singulier à la Guinée que d'interpeller des adversaires qui, par des propos ou des comportements, portent atteinte à l'équilibre de la société.
Dans sa déclaration, l'ambassade des États-Unis se félicite de la récente libération provisoire de 4 membres de l'opposition politique après 8 mois de détention provisoire. Mais ce geste contraste avec l'arrestation de 2 opposants, regrette-t-elle? Selon l'opposition politique guinéenne, 117 de ses membres sont en détention dans la capitale à Conakry. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Une délégation irakienne se trouve à Washington pour conclure avec l'administration Biden un accord sur la fin de la mission de combat américaine en Irak. Un accord devrait être signé lundi prochain lors de la rencontre entre le Premier ministre Mustafa Al-Kadhimi et le président Joe Biden. Patsy Widakuswara, correspondante de VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de Mohamedou Oumfa.
Un attentat suicide a frappé Bagdad cette semaine, faisant au moins 34 morts. L'attaque, revendiquée par le groupe État islamique, est le type de violence que les forces irakiennes, entraînées et équipées par les États-Unis, tentent de prévenir. Le soutien des États-Unis à l'Irak devrait se poursuivre. La formation et l'appui logistique seront le point central de la réunion entre le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi et le président Joe Biden lundi à la Maison-Blanche. Yen Saki, attaché de presse à la Maison-Blanche.
Leur gouvernement nous demande à nous et à la coalition un soutien continu pour la formation, le soutien de ses forces en matière de logistique, de partage de renseignements et d'autres domaines de coopération sécuritaire.
Les États-Unis ont retiré leurs troupes à la fin de la guerre en Irak en 2011, mais après la résurgence du groupe État islamique en Irak et en Syrie en 2014, les forces américaines sont revenues. En avril dernier, les États-Unis et l'Irak ont convenu de changer la mission des troupes américaines pour se concentrer sur la formation et le conseil permettant le redéploiement des troupes combattantes qui se trouvent en Irak. Un accord sur la fin de la mission de combat américaine doit être finalisé ce vendredi, a déclaré le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, dans une interview avec le service kurde de VOA.
Les questions liées à leur nouvelle mission et à leur départ relèvent d'un calendrier convenu entre les deux parties, ainsi que les questions techniques ou liées à la sécurité des forces.
Alors que Bagdad est impatient de montrer qu'il peut gérer sa propre sécurité, des milices soutenues par l'Iran attaquent les troupes américaines et irakiennes à l'aide de drones et de roquettes. Le gouvernement irakien est également confronté à des pressions de groupes politiques soutenus par l'Iran qui veulent le départ des troupes américaines. Bagdad a aussi besoin du soutien militaire américain pour maintenir la stabilité. Natasha Hall, chercheuse sur le Moyen-Orient au Centre d'études internationales et stratégiques.
Il y a de plus en plus de déclarations publiques disant que l'Irak est prêt et exige le retrait militaire américain, du moins ses troupes de combat. Du côté américain, c'est à peu près la même chose. Il y a clairement un objectif de l'administration Biden de réduire son engagement au Moyen-Orient, de le mettre au bas de ses priorités.
Environ 2500 soldats américains restent en Irak. S'ils sont appelés à changer de mission, cela ne présage aucune réduction de leur nombre. Mais l'annonce de la fin de la mission de combat des troupes américaines peut être considérée comme une victoire politique pour le Premier ministre Al-Kadhimi, quelques mois seulement avant les élections parlementaires irakiennes prévues en octobre.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. À la présentation, c'était Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.